Ça va paraître gros ce que je vais vous dire là, mais je pense que l'évolution technologique à tout prix, c'est un leurre. C'est un leurre parce qu'on a l'impression que tout va évoluer à l'infini, que toutes les technologies peuvent évoluer à l'infini, mais c'est pas vrai. Il y a souvent des limites physiques, il y a souvent des limites au niveau aussi de l'interface. Il y a certaines limites comme ça qui font que il n'y a plus d'évolution qui est possible. Vous avez juste à penser au disque dur. À un moment donné, physiquement, même si on est capable de mettre énormément d'informations sur un disque dur de 2 pouces et demi de large, on ne pourra plus segmenter. Ça va être physiquement impossible d'aller plus loin et de mettre plus d'informations. C'est la même chose pour les logiciels. Quand l'interface est construite d'une certaine façon, à un moment donné, on peut plus évoluer, on peut plus en rajouter, on peut plus améliorer sans complexifier la chose. Et c'est là que, pour moi, il y a un point de rupture parce que on a juste à penser au système iOS d'Apple qui, pour moi, est rendu en fin de vie dans sa mouture actuelle. Donc, le principe avec les icônes, la palette d'icônes sur l'écran et plusieurs icônes comme ça, et toutes sortes de choses à l'intérieur de ça, fait qu'on ne peut plus l'améliorer. Ça fonctionnait déjà bien, mais avec ce que sont capables de faire maintenant les téléphones intelligents, il faut passer à autre chose. Parce qu'on peut avoir beaucoup plus de fonctions, mais on ne peut pas les avoir sans complexifier ce système-là. Il faut juste trouver ou inventer un nouveau système qui va demeurer simple et qui va incorporer ces choses-là. Parce que c'est un autre problème de l'évolution technologique, c'est que il y a des choses qu'on est capable de faire à un certain moment donné qui n'étaient pas prévues initialement. Et là, ça vient tout changer. Je pense que c'était une bonne chose quand Steve Jobs est arrivé chez Apple, qui a lancé le développement du système 10 d'Apple parce que le système 9 ne pouvait pas aller beaucoup plus loin qu'il était rendu là. On pouvait seulement ajouter des choses ici et là, mais on était pris avec une ancienne architecture extrêmement lourde. Et là, quand on arrive à la fin d'une évolution, souvent on appelle ça... Il y a beaucoup de gens qui se trouvent très intelligents. Et moi-même, je l'ai utilisé tantôt, le point de rupture où les gens disent le changement de paradigme. Mais en fait, moi, je pense tout simplement que on peut dire qu'on est rendu à la fin d'un cycle technologique et qu'il faut simplement passer au suivant. Mon nom est Sylvain Grandmaison. Vous écoutez Le Québec en balado-diffusion.
Un petit village que grandit la belle fille sage, plus connue sous le nom de Petit Papillon. Petit, petit papillon, petit, petit papillon, petit, petit papillon, comme le temps est long. Petit papillon prit le train un jour, un aller sans retour pour suivre son grand amour. C'était un joli blanc, pas si mauvais garçon, mais pour le reste plutôt con, comme le temps fut long. Dans son petit cocon, dans son petit bureau, pour joindre les deux bouts, elle tenait le coup. Mais les blonds sont sans cœur, ils ne donnent pas de fleurs, et quand ils partent, ils s'enfuient avec toutes les économies. Thank you. petit papillon avait le cœur trop tendre, décide de se pendre, mais la corde de se fendre. Elle essaie à nouveau, se lance sous les autos, se réveille dans les canaux, trempée jusqu'aux os. Elle tente l'overdose, une infirmière en rose la surveille en psychose dans une salle morose. Petit papillon s'en va chercher la mort pour lui dire deux mots, donne-moi mon passeport. Mais dans son sac poubelle, la mort la trouve tellement belle, elle lui roule une grosse pelle, lui jure un amour éternel. Petit papillon, jamais tu ne mourras, tu es à moi, je suis à toi, tu n'as pas le choix. Petit papillon se lance vers la mort, un poignard à la main, 12 coups de surin. Tiens, 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 la mort, tiens, meurs. La mort est un petit papillon qui trouve le temps long, attendant le prochain wagon, le prochain petit papillon. La mort est un petit papillon qui trouve le temps long, attendant le prochain wagon, le prochain petit papillon.
Oui, vous l'avez probablement reconnu, notre ami Jean Leloup. L'album est sorti, ça fait un petit bout de temps, un mois de février, je crois. Mais j'avais pas eu l'occasion de le faire jouer sur l'émission. Donc, notre ami Jean Leloup, je vais vous en faire jouer d'autres tout à l'heure. Je vous parle d'évolution technologique parce que je réfléchis beaucoup en ce moment, puis je trouve que l'être humain est quand même une drôle de bébite, veux pas. On a vu cette semaine, il y avait la grande messe d'Apple et puis beaucoup de gens tapaient sur Apple pour dire « Bon, ils sortent plus rien de nouveau, c'est plus excitant. » Et moi-même, bon, avant, j'aurais suivi en direct les nouveaux développements. Et là, ben, je suis fait comme tout le monde, je suis allé voir un peu après qu'est-ce qu'il y avait de nouveau. Moi, dans mon cas, c'est pas par manque d'intérêt, c'est juste parce que, bon, je suis occupé durant la journée maintenant, de façon plus stable. Mais si on regarde qu'est-ce qui a été annoncé, il y a quand même beaucoup d'innovations, mais le problème, c'est que on est tellement habitué, ou il y a tellement eu des moments où est-ce que Apple a lancé des produits spectaculaires, leur iPhone, leur iPad, qui étaient hautement attendu que maintenant, n'importe quoi, on pourrait lancer n'importe quoi et ça ferait pas l'affaire. C'est qu'on s'habitue. On s'habitue à être émerveillé puis on en veut plus. Et ça, c'est le problème des compagnies qui ont une nature innovante. Le Cirque du Soleil en est un bon exemple. Où est-ce que, à un moment donné, où est-ce que tu as poussé le corps humain dans ces derniers retranchements, tu as poussé l'illusion au maximum, tu as tout fait pour aller plus loin. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour émerveiller plus? Ben, il faut faire autre chose, tout simplement. Ce qui n'est pas toujours facile pour ces compagnies-là, parce que, comme Apple, maintenant que c'est rendu tellement gros, ils ont beaucoup à perdre. Alors que quand Steve Jobs est revenu dans la compagnie, il n'y avait rien à perdre. On s'habitue et même si on aime certaines technologies, on est confortable avec certaines technologies, on va vouloir en avoir plus, on va vouloir en avoir différemment, on veut toujours autre chose. Et c'est pas nécessairement toujours une bonne chose parce que si je prends par exemple la photographie, on veut toujours le dernier appareil, un nouveau plus de mégapixels, plus de ci, plus de ça, alors que les meilleures photos sont pas nécessairement prises par quelqu'un qui change tout le temps d'appareil, mais justement par quelqu'un qui apprend à bien manier son appareil, à bien travailler et à faire des photos superbes avec. Donc, c'est ça. Moi, j'ai justement de l'équipement audio que j'ai ressorti. Ma console électronique Zoom R24. Et je pourrais dire, oui, ça fait quoi, peut-être 5 ans, 6 ans, je l'ai acheté. Puis, bon, il y a d'autres modèles, tout ça, mais ça fonctionne hyper, hyper bien. Pourquoi j'en achèterais une autre? Et je suis un peu comme ça. Quand j'achète quelque chose de nouveau maintenant, c'est pas nécessairement pour avoir le dernier gadget, mais c'est plus, bon, parce que j'ai un produit qui est rendu en fin de vie ou parce que j'ai un nouveau besoin, mais autre que ça, plus vraiment, beaucoup moins, disons. Bienvenue au Québec en balado-diffusion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques statistiques parce que durant le temps que j'ai été beaucoup moins actif, c'est sûr que les statistiques de mon podcast ont descendu un peu, ce qui est tout à fait normal. J'ai été inactif, il y a des gens qui se sont désabonnés. Sauf que je vais vous donner quelques statistiques, ça peut être intéressant. Au total, j'ai 74 vrais épisodes, celui-là que vous entendez est le 75e. Et j'ai 5 courts épisodes pour un total de 79. En date d'hier, j'ai vérifié, j'ai eu au-delà de 200 000, donc 208 721 téléchargements pour 79 épisodes. Ça fait une moyenne de 2642 téléchargements par épisode, ce qui est quand même phénoménal. Merci, c'est super. C'est sûr que les derniers épisodes sont toujours les moins téléchargés. C'est l'effet de longue traîne, donc le fait qu'ils sont là pendant longtemps, qui fait en sorte qu'au fil du temps, ça devient extrêmement téléchargé, quoique il y a une baisse. Moi, par exemple, auparavant, je mettais en ligne un épisode, à l'intérieur de 2 jours, je pouvais m'attendre à avoir autour de 400 téléchargements en 2 jours. Là, c'est plus vrai. Ça prend peut-être 2 semaines. OK? Donc, oui, les choses ont changé. Les gens se sont désabonnés et je les comprends tout à fait. Juste pour vous dire, l'épisode le plus téléchargé, c'est l'épisode où est-ce que j'interviewais le fondateur de Wikipédia, M. Jimmy Wales. Et ça m'a surpris, il y a quand même au-delà de 6000 personnes qui ont téléchargé cet épisode-là. Et oui, à chaque mois, c'est quand même un épisode extrêmement, extrêmement populaire. Il y en a eu d'autres dans l'histoire de mon podcast, des très populaires, mais celui-là, dernièrement, a été vraiment le plus populaire. Et là, pourquoi je vous parle de ça? Bien, parce que je vais vous demander votre aide pour un petit peu ramener du vibe dans ce Québec en balado-diffusion-là pour ramener des gens. Donc, je vais vous donner des missions à chaque épisode, pour quelques épisodes, juste pour vous prouver que et pour me prouver que l'effet d'entraînement sur le web peut être intéressant, peut être présent. C'est sûr que moi, la plupart des gens me connaissent de mon entourage. Ils savent que je fais cette émission-là. Beaucoup l'écoutent. Donc, quand même, je publie ça sur ma page Facebook. Il n'y a pas grand monde de plus qui vont l'écouter. Puis, dire soi-même qu'on fait une bonne émission ou n'importe quoi, ça fait un peu pompeux. Les gens ne nous prennent pas au sérieux. Mais si vous le faites, c'est là que ça devient intéressant. Donc, ce que je vais vous demander, c'est hyper simple. Si vous êtes en train d'écouter cet épisode-là sur votre ordinateur, probablement à l'intérieur de iTunes, allez en ce moment dans iTunes et allez sur le iTunes Store. Okay? Pendant que vous faites ça, ceux qui l'écoutent sur un appareil mobile, donc sur un appareil iOS, sur un iPhone, vous êtes dans l'application podcasting. Donc, allez là-dedans, cliquez sur la petite loupe pour faire une recherche. Et si vous êtes, ceux qui sont sur ordinateur, si vous êtes maintenant sur l'iTunes Store, faites une recherche. OK? Recherchez pour mon émission. Vous pouvez taper Québec Balado, mais si vous tapez juste Québec pour ce qui est des podcasts, vous allez le trouver. Ça va sortir dans les premiers. Donc, allez pas dans les épisodes, mais vraiment faites une recherche puis allez sur l'émission. Oui, j'attends. Vous êtes rendu? C'est bon? Popé? OK. Elle est là, sur la page de Québec Balado. Il y a des petites étoiles. Allez en cliquer, s'il vous plaît. Ça va me faire énormément plaisir. Je vais retourner voir, puis je vais être drôlement surpris. Mais l'autre chose aussi, c'est pendant que vous êtes là, ça prendra vraiment pas de temps. Laissez un commentaire. C'est vraiment très utile, très pratique. Pourquoi ça aide? Ça aide au positionnement dans iTunes, dans le iTunes Store. Et vraiment, c'est ce qui va ramener du vibe dans mon podcast. C'est ce qui va faire que il y a des, je vais ressortir dans l'iTunes Store, qu'il y a des nouvelles personnes qui vont s'abonner. Ça va vraiment, vraiment m'aider. Donc, faites ça tout de suite. Attendez pas à demain, faites-le pas la semaine prochaine, vous allez pas vous en souvenir. Vraiment, donnez-moi un coup de main. Moi, je mets beaucoup d'heures à faire ce podcast-là. Mettez 2 minutes simplement à liker mon podcast et ça va vraiment m'aider. Et oui, j'en ai un, bien sûr. J'ai failli pas en prendre, mais je pouvais pas m'empêcher. Juste pour vous, je le débouche. Donc, ce carburant de la semaine, c'est une bière d'été, une bière de soif, une bière de saison. Je cherchais une bière de saison à mon épicerie et il n'y en avait pas tant que ça. Donc, celle qui est souvent disponible, c'est celle des Brasseurs du Monde. Je vais verser ça. Donc, qu'est-ce qu'une bière de saison? Ben, c'est une bière qui était faite pour le temps des récoltes, qui était faite de saison, donc l'été, pour la saison des récoltes. Donc, le nom est resté. C'était fait en Belgique. Et souvent, ben, on ne brasse pas l'été parce qu'il fait trop chaud et les levures produisent des saveurs moins intéressantes quand ils sont au chaud. Sauf que les levures de saison, c'est des levures qui ont été sélectionnées justement parce que même au chaud, ils ont une bonne saveur et même qu'ils développent leur saveur lorsque la fermentation est un petit peu plus chaude. Il faut savoir que souvent, ben, l'eau était impropre à la consommation. Les ruisseaux, des fois, étaient contaminés par bon, les animaux qui faisaient leurs besoins dedans ou bien par justement différentes choses qu'on jetait malheureusement l'être humain dans les ruisseaux. Donc, souvent, c'était contaminé. Et pour purifier l'eau ou la rendre consommable, ben, ce qu'on faisait, on faisait de la bière avec. Ce qu'on ne savait pas nécessairement à l'époque, c'est que dans le processus pour faire de la bière, ben, on boue l'eau et on boue le moût pour incorporer des houblons. Et ben, en fait, c'est simplement ça qui rendait l'eau propre à la consommation. S'il y avait su simplement qu'il y avait à faire bouillir l'eau pendant 10 minutes, il y aurait peut-être bu moins de bière, mais développé aussi moins de bière, ce qui fait que ben, on les en remercie. Qu'est-ce que c'est une bière de saison? Ben, c'est une bière d'été, une bière de soif, une bière qui est pas très sucrée et dont bon, les saveurs sont un peu acidulées, je dirais. Donc, je vais sentir ça dans vos oreilles. Ça sent le houblon quand même assez frais. Et oui, c'est justement légèrement acidulé. C'est des bières aussi qui gardent une belle mousse. C'est super agréable. Et c'est souvent, c'est très pâle. Parfois un peu voilé parce que, bon, des fois, il y a un peu de blé dedans. Et souvent, ben, il y a des petites saveurs un peu, je dirais, on dirait funky. On aime ça, les bières funky, ben oui. Et souvent, on fait des bières de saison et On rajoute des levures brettes dedans pour donner une saveur encore plus funky. Parfois aussi, on met des fruits dans une bière de saison. C'est assez intéressant. Il y a beaucoup d'expérimentation qui est faite en ce moment sur la scène brassicole et ça, c'est vraiment le fun. Parlant de bière, la semaine passée, c'était le festival Bière et Saveurs à Chambly. Malheureusement, j'aurais dû vous en parler avant pour que vous puissiez y aller, mais c'est un événement qui est super agréable dans un lieu mythique, donc autour du fort de Chambly, riche en histoire. Et puis, ben, on découvre les bières du Québec dans ce cadre-là. Il faisait super beau, c'était super agréable. Et j'ai bu des bières vraiment magiques, des bières assez uniques. Ça a été l'occasion de goûter à la double IPA de la brasserie Les Trois Mousquetaires. Ils la font une fois par année. Elle est disponible une journée sur place, en bouteille, avec un maximum qu'on peut acheter. J'avais pas pu y aller, mais étant donné que la semaine d'après, il était à Chambly pour le festival, ben, c'est le fun, il y en avait sur place. Donc, ça permet de goûter à des choses comme ça. J'ai goûté aussi à une quadruple belge qui a à peu près 5 ans d'âge. Presque plus pétillant, presque plus d'effervescence, mais vraiment des saveurs confites. C'est absolument, absolument incroyable. Ben oui, c'était la grande messe de Apple cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau, de nouveau? Ben, je vous dirai pas tout, mais quand même, il y a différentes choses d'intéressantes. Le système Watch OS, donc la montre, la Apple Watch. Deuxième système d'exploitation, celui-là qui rend la montre un petit peu plus indépendante. Donc, elle peut fonctionner, capter et émettre des informations sans être tout le temps relié au téléphone. Oui, évidemment, pour avoir le Wi-Fi, pour avoir bon accès à Internet et transmettre des données, bien, c'est sûr qu'il faut qu'elle ait accès à un téléphone, mais elle peut continuer à fonctionner avec le OS 2 sans que le téléphone soit tout près, ce qui est une très bonne chose. Il y a eu les iPhone, un petit update, iPhone 6S et 6S Plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ben, beaucoup de fonctions au niveau de la caméra frontale. Donc, la caméra frontale qui se prend, je crois, c'est 5 mégapixels. Qui a une meilleure qualité pour faire des selfies, évidemment. On peut activer l'écran pour qu'il devienne un petit peu comme un flash. C'est sûr, ça n'émet pas autant de lumière que le flash qui est au verso. Mais quand même, la coque serait plus rigide, le processeur est plus puissant, donc ça permet de faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Il y a eu aussi le lancement du iPad Pro, qui a été la chose la plus saluée, je pense. Donc, une taille impressionnante parce que, donc 12,9 pouces, donc presque 13 pouces en diagonale. Donc, la hauteur du iPad précédent, donc la partie la plus haute, c'est maintenant la largeur du iPad Pro. Donc, l'écran n'est pas deux fois plus gros que l'ancien iPad, mais quand même plus qu'une fois et demie plus gros, ce qui est assez impressionnant. Donc, ça fait un bon outil de travail. C'est ultra performant. Il y a de plus en plus d'intégration avec des logiciels tiers, comme par exemple les logiciels de Microsoft, la suite Office, qui ont été et qui seront updatés beaucoup plus pour ce type d'appareil-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça devient une meilleure machine de travail. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on est un peu pogné dans le système iOS malgré tout. Mais j'espère, en tout cas, je souhaite que au cours de la prochaine année, il y aura une meilleure évolution du système iOS. Pour l'iPad Pro, il y a aussi d'autres choses d'intéressantes, ce qui est le nouveau stylet. Donc, on est parfois habitué d'acheter un stylet, soit pour son téléphone intelligent ou pour sa tablette, qui permet juste d'écrire ou de taper à la place de nos doigts. Ce nouveau stylet-là fait beaucoup plus. Il fait plus comment? Ben, en fait, il ressent la pression. Donc, si on utilise un logiciel de dessin, donc on va pouvoir faire en sorte que le trait soit plus large ou plus mince ou plus foncé, plus pâle. Non seulement la pression, mais l'angle aussi. Donc, on montrait avec des logiciels de dessin que lorsqu'on penche le crayon, la pointe écrit de façon très foncée et très droite. Et le côté qui est un peu penché, donc il y a comme un genre de dégradé de la pointe vers le côté qui se fait lorsqu'on trace. Donc, c'est assez intéressant créativement ce qu'on peut faire avec ça. Au niveau des autres applications, je ne vois pas nécessairement ce qu'on peut ajouter comme fonction, mais c'est un produit intéressant. Malheureusement, il va coûter 99 US. Donc, en dollars canadiens, ça va sûrement se rapprocher des 129 avec le taux de change actuel. Il y a aussi un couvercle, un smart cover avec clavier, un peu comme la Microsoft Surface. Donc, un clavier qui se rapproche beaucoup du clavier du dernier iPad au niveau du toucher, au niveau des touches. C'est un clavier complet aussi. Donc, ça devient une machine de travail, mais ces extras-là coûtent cher. Le clavier, si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose comme 160 US. Donc, juste d'accessoires, on en est à 260. L'appareil lui-même est très cher. Si ma mémoire est bonne, plus de 800. Donc, si on veut avoir le kit complet, ça dépasse le 1000 américains. Donc, on parle de 1200-1300 pour une tablette, en fait, avec un petit clavier. C'est sûr que notre clavier Bluetooth qu'on a déjà va fonctionner. C'est sûr qu'un stylet normal qui reconnaît juste le toucher va fonctionner. Mais ces outils-là peuvent être assez intéressants. Vous regarderez ça si ça vous intéresse. Je vais vous laisser encore une fois avec une chanson de notre ami Jean Leloup et je vous reparle tout de suite après. C'était Johnny The Bad Wolf. J'ai goûté à ma bière de saison. Pas vilain. C'est drôle, au nez, elle est un peu plus fruitée. Et quand on y goûte, ben c'est plus le côté floral qui ressort. C'est vraiment super agréable. Je vais vous parler un peu de podcasting. Hey, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui me demandent qu'est-ce qu'ils devraient s'acheter pour démarrer à faire du podcasting. Qu'est-ce qu'ils devraient acheter comme équipement. Et c'est sûr que ça dépend du type de podcast que vous voulez faire. Ça dépend de la qualité que vous voulez aussi. C'est sûr qu'à la base, ça prend un bon micro. Mais avant de commencer, je vous conseille, faut l'essayer. La meilleure façon d'essayer de faire du podcasting à peu de frais, si vous avez un appareil iOS, donc un iPad ou un iPhone, c'est de downloader l'application BuzzJock. Moi, je m'en sers, oui, pour enregistrer des podcasts des fois plus courts, des petites choses, mais je m'en sers quand même si c'est pas l'appareil sur lequel j'enregistre au final. Donc, en ce moment, j'enregistre sur ma console, mais lorsque je fais jouer la musique, je la fais jouer à partir de BuzzJock. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des audio cards, donc il y a des pastilles auxquelles je peux attribuer des sons ou des chansons. Et quand je pèse dessus, il démarre. Quand je repèse dessus, il arrête. Donc, je peux arrêter une chanson quand je veux. Donc, de télécharger cette application-là, ça vous permet à peu de frais d'essayer le podcasting. C'est sûr que ça coûte des sous. C'est 10$. Là, c'est sûr que vous allez dire, « Wow, 10$ pour une application pour téléphone quand je ne suis pas sûr que ça va, que je vais en faire. » Oui, c'est 10$, mais en même temps, c'est beaucoup moins cher qu'un micro, c'est beaucoup moins cher qu'une console audio, c'est beaucoup moins cher que n'importe quoi. Et pour l'essayer, ben, vous pouvez utiliser le micro qui vient avec les écouteurs de votre appareil. C'est sûr que vous ne pouvez pas vous attendre à avoir le même son que a ma voix en ce moment. Pourquoi? Ben parce que c'est ça, j'utilise en ce moment un micro qui est fait pour la radio FM, un micro qui vaut quelques centaines de dollars, dans un préampli, un compresseur, une console avec de l'equalizer, tout ça. Ça ne peut pas faire exactement la même chose, mais c'est quand même bon. Là. On s'entend, là, vous allez arriver peut-être à 60-70% du résultat au niveau de la voix, avec le petit micro du iPhone. Et ça vous permet d'essayer, ça vous permet de structurer votre podcast, ça vous permet d'attribuer de la musique. Donc, essayez ça, essayez de faire jouer de la musique pendant que vous parlez, tout ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Ça serait vraiment la première étape. Si vous êtes mordu, ben là, vous pouvez penser à ce que vous voulez acheter avec ça. C'est sûr que vous pouvez acheter, il y a des petites interfaces qui se mettent sur les appareils iOS, ça peut être une option, mais malheureusement, ce genre de choses-là, ça devient désuet assez vite. Au bout de 3 ans, vous allez changer d'appareil, le connecteur va changer, etc. Donc, vous êtes mal pris. Tandis qu'un bon micro avec des prises XLR, ça va toujours être bon, ou même un micro avec une prise USB, ça va toujours être bon ça aussi, ou ça risque d'avoir quand même une certaine longévité. Il y a plusieurs micros USB, je pourrais vous en reparler dans une autre émission, mais c'est une autre façon de faire. Moi, personnellement, je préfère ne pas faire de montage, donc enregistrer en temps réel et exporter le fichier MP3, ça finit là. Il y a d'autres gens qui préfèrent faire du montage. Ça dépend de comment vous êtes à l'aise de travailler. Il faut se pratiquer. C'est sûr que moi, la première fois que j'ai fait des podcasts, je n'ai pas enregistré tout d'un bout à l'autre en faisant jouer l'audio en même temps. Non. Mais si vous en avez déjà fait de la radio étudiante, puis vous avez l'habitude, c'est sûr que ce serait peut-être l'idéal pour vous. Sinon, si vous avez déjà une console, certaines personnes des fois ont déjà un micro, ont déjà une console, ben simplement s'acheter un petit enregistreur, comme par exemple le H2 de Zoom qui coûte vraiment pas cher, qui permet d'enregistrer un signal de niveau ligne, donc un line-in. Donc, si vous sortez de votre console un signal de niveau ligne, vous l'entrez là-dedans. Donc, ça peut devenir votre machine enregistrée. En même temps, le H2, il y a un micro dessus. Donc, ça permet d'aller faire de l'entrevue, d'aller enregistrer dehors, si on veut, n'importe où. Donc, c'est assez pratique. Mais je reviendrai sur les micros assez bientôt. Je vais vous parler un petit peu de podcasting en général, de choses que j'écoute, de phénomènes aussi d'entraînement qu'il y a eu dans le podcasting. Justement, il y a eu le podcast Serial que je vous ai déjà parlé l'année passée, qui devrait revenir le mois prochain. Hein? Ils nous ont dit que ça allait revenir une fois par année, donc c'est à peu près presque à pareille date l'an passé que ça a commencé. On ne sait pas ce que sera la thématique. Pour moi, ce n'est pas nécessairement 100% un vrai podcast parce que c'est quand même produit par les gens qui produisent This American Life aux États-Unis, malgré que c'était un show qui était destiné uniquement au format podcasting. Il y a quand même toute la machine de This American Life, donc de la radio publique américaine, derrière ça. Mais malgré tout, ça a été pensé comme un podcast, donc en série, parce qu'on ne croyait pas que ce format-là était viable à la radio. Donc, ce qui est un peu drôle, c'est que normalement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des shows pour la radio qui sont disponibles par la suite en podcast. Là, c'est le contraire qui s'est produit. Serial a été mis en podcast et après ça, vu la popularité, l'engouement, ben, il a été quand même diffusé à la radio. Parallèlement à ça, à peu près en même temps, il y a Gimlet Media qui est apparu. Donc, c'est purement un hasard. Donc, Alex Bloomberg, un gars justement qui avait travaillé avec la gang de This American Life, a démarré sa propre compagnie de podcasting. Donc, 100% podcast. Donc, juste de produire des émissions d'une grande qualité en podcast, en vivant avec la pub. Donc, c'est sûr que si vous écoutez la première saison de Startup, il y a justement un an, c'était son processus de création d'entreprise, de financement, de rencontre avec des grands anges financiers. Donc, ça a été assez intéressant. Et c'est durant ce processus-là, puis pendant qu'on écoutait ça, qu'ils ont trouvé le nom de la compagnie, qu'ils ont trouvé le financement, que finalement, c'est devenu viable. Donc, il a commencé au début, il était tout seul, il se parlait dans son micro, tout ça. Et plus ça avançait, il y a eu un partner, il y a eu du financement, il y a eu des employés, tout ça. Et à la fin, c'est devenu une vraie compagnie. En ce moment, il y a trois émissions. Il y a Startup, dont la deuxième saison a terminé au début de l'été. Il y a Reply All, qui est un show sur la technologie. Et il y a The Mystery Show, qui est intéressant, qui est plus un format podcasting pour moi, parce que la longueur des épisodes varie d'une fois à l'autre. Et aussi le moment auquel il le publie, ça varie, c'est pas régulier. Donc moi j'aime ça, il y a un côté plus humain. C'est un petit peu moins surproduit comme Startup qui est extrêmement, extrêmement produit. Donc allez écouter ça si ça vous intéresse. Je peux pas passer aussi à côté de Mark Maron, qui est un comique américain que je vous ai probablement aussi déjà parlé à deux ou trois reprises. Pourquoi je vous en parle? Parce que il y a peut-être un mois et demi, il a reçu le président Barack Obama. Donc oui, un podcaster indépendant qui n'est pas diffusé à la radio, qui a reçu le président des États-Unis. Pourquoi? Mais parce que son podcast est souvent dans le top 10 de Apple, parce qu'il y a un côté décontracté, parce que aussi il a l'habitude d'interviewer toutes sortes de monde. Il a interviewé, bien évidemment, il a commencé en interviewant des comiques. Il s'est mis à interviewer des comédiens, donc des gens dont le métier, c'est pas nécessairement d'être comique, mais d'être acteur. Et ensuite de ça, mais il a commencé à interviewer des musiciens. Il a interviewé entre autres Iggy Pop, qui s'est mis en bedaine chez eux, chez Marc Maron. Il a interviewé aussi, comment il s'appelle, Dave Grohl. Il a interviewé vraiment toutes sortes de monde. Et ben justement, c'est la Maison-Blanche qu'ils ont contacté pour leur dire « peut-être qu'il y a une opportunité à faire quelque chose ». Au début, ils pensaient que c'était une blague, c'est sûr. Tu sais, comment de fois qu'on reçoit des trucs provenant du gouvernement, d'une banque, de n'importe quoi. Donc, au début, ils ont mis du temps à répondre, ils ont répondu, puis ça s'est avéré vrai que c'était vraiment la Maison-Blanche qui communiquait. Puis, ce qui est intéressant, c'est l'épisode après l'épisode de l'entrevue avec Barack Obama. C'est une discussion entre Marc Maron puis son agent producteur, en fait, qui book les entrevues puis qui a fait tout le suivi. Puis c'est tout le processus est vraiment intéressant. Pourquoi Marc Maron? Pourquoi les médias sociaux? Ben parce que, justement, ils veulent se rapprocher du monde, se rapprocher du peuple. Puis Barack Obama, il y a un peu ce côté-là de rester près du monde comparé à beaucoup d'autres présidents. On le voit souvent dans des photos, il se mêle au monde, il parle au monde, il leur fait des high-fives. Il est vraiment comme ça. Je pense que ça fait partie de sa personnalité. D'aller rencontrer des gens comme ça. Faut dire que Marc Maron, c'est pas un millionnaire. C'est un gars qui a une maison en banlieue de Los Angeles, bien normal, qui a installé son petit studio de podcasting dans son garage. Il a sa guitare, il a ses amplis, il a ses gogos. C'est ça, un petit peu son petit musée personnel. C'est pas si beau que ça, si propre que ça. Quoique, il a dit qu'il a fait du ménage pendant je sais pas combien de temps pour rendre ça correct, là. Mais ceci dit, c'est ça, il y a un côté très, très humain, très de proximité. Et le président Obama est allé dans le garage de Marc Maron faire un épisode, ce qui est assez incroyable. On n'aurait pas pu penser ça, même il y a 15 ans, parce que le podcasting n'existait pas, mais il y a 10 ans, dans les premiers temps du podcasting, même si on voulait que ça soit un grand média, et ça ne l'était pas encore. Puis là, ben, c'est le fun, ça l'est, ça s'en vient. C'est sûr que Obama n'a pas fait de révélations incroyables, là, quoique il a montré un côté beaucoup plus personnel, beaucoup plus humain que dans bien des cas. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que il a habité à deux coins de rue de là. Il habitait juste en bas de la rue d'où habite Marc Maron en ce moment. Donc pour lui, c'est en même temps un retour aux sources. C'était quand même un peu touchant de l'entendre parler de ça. Donc, c'est aussi un podcast que j'écoute à l'occasion, pas tout le temps, parce que ben il y a souvent des gens que je connais pas ou des gens dont l'humour ne m'intéresse pas. Mais je l'écoute quand même à l'occasion et je voulais vous en parler à cause de cette entrevue-là d'Obama. Je vous recommande d'aller écouter ça. Ça vaut la peine. Ça apporte vraiment une autre vision du personnage d'Obama. Et sinon, ben faites une recherche. Allez écouter l'entrevue qu'il avait faite avec Robin Williams, parce que c'est un gars qui se connaissait. Ils ont déjà fait des shows dans les mêmes endroits, tout ça. Ils font partie du même cercle d'humoristes un peu. Puis c'était extrêmement touchant. Puis quand on le réécoute suite à l'an passé, lorsque Robin Williams s'est suicidé, c'est poignant, c'est vraiment touchant. Donc allez écouter ça, ça vaut vraiment vraiment la peine. Je vais mettre une nouvelle entrée sur quebecbalado.com. C'est CHYZ, c'est quoi ça? C'est la radio des étudiants de l'Université Laval. Ils ont beaucoup beaucoup d'émissions, donc ils m'ont pas fourni une émission à mettre de l'avant en particulier. Ils ont juste dit on produit plus d'une centaine d'heures d'émissions originales par semaine. peux-tu mettre une référence? Puis, ben, c'est sûr, moi, ça me fait plaisir. C'est un peu la mission que je m'étais donnée de partager. Même si je suis pas payé, même si je mets de l'argent dans le podcasting plus que j'en reçois, ça me fait plaisir. C'est de justement partager comme ça. Vous devriez faire la même chose, tout le monde, partager les émissions des autres. C'est tellement gratifiant. Ceci dit, vous avez peut-être vu cette semaine, moi, il est arrivé quelque chose, c'est La 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 Human Steps. Edward Locke a mis la clé dans la porte après 35 ans. Et pourquoi? Ben parce qu'il n'y avait plus assez de liberté, il n'y avait pas assez de subventions, pas assez de cash flow. Et je l'ai entendu dire en entrevue, on avait maximum un an de liquidité. Puis ça ne donnait pas assez de liberté. Puis quand il est rendu là, pour lui, c'était la liberté de création puis d'avancer, c'est important. Tu sais. Et même si, bon, il va finir, là, il a son carnet de commandes, là, il y avait des choses à terminer, là, mais il ferme boutique. Et il faisait quand même 3-4 productions par année. Donc lui, comme metteur en scène, il participait à toutes sortes de choses. Et moi, j'ai eu le bonheur, justement, il y a 5 ans, j'ai été mandaté par le National Arts Center à Ottawa pour réaliser une entrevue. Donc, j'étais le réalisateur. Donc, derrière les micros, derrière la console, c'est moi qui dirigeais ce beau monde-là et qui enregistrais. Et ça a été vraiment une belle expérience parce que, bon, c'est pas la première fois que j'enregistre, mais je trouvais ça touchant. C'est vraiment le propos, c'est vraiment connaître plus le bonhomme, connaître plus la machine, la Human Steps, et des choses qu'on sait, bon, qui a travaillé avec David Bowie, qui a travaillé, bon, avec différents artistes, mais de l'entendre un peu faire de la rétrospective, c'était vraiment le fun, puis pour moi, tu sais, je l'ai réécouté l'autre fois, ça faisait longtemps que je n'avais pas réécouté ça, puis c'est vraiment quasiment un testament, ce document-là, parce que la fille qui l'a interviewé, mais c'est une journaliste anglophone spécialisée dans la danse, qu'il connaît depuis longtemps, de façon quand même assez intime. Donc, elle a pu aller fouiller dans des endroits où est-ce que d'autres journalistes seraient passés carrément à côté. Et ça a donné une quand même assez longue entrevue. C'était réalisé en plein milieu de la salle de répète. Qui était, c'est-tu sur Saint-Laurent ou du parc, au deuxième étage, une grande salle quand même assez chouette, malheureusement avec une tonne d'écho, mais quand on l'écoute, on entend cet écho-là et ça donne une texture, ça donne vraiment une ambiance. Et quand je l'écoute, je me revois là, ce qui est super intéressant quand même. Faut dire qu'Edward Locke, qui a un ego gros comme le monde, était pas très participatif. Pour m'aider à faire en sorte que le son soit meilleur, il voulait pas se rapprocher du micro, il voulait pas avoir le micro trop proche de la face. Puis quand on le sait, si on éloigne le micro, ben à un moment donné, le ratio entre la voix et le bruit, à un moment donné, il y a un maximum qu'on peut faire. Puis c'est là qu'on pognait beaucoup d'écho. Je lui demandais, pouvez-vous vous rapprocher un peu? La réponse était non. Je peux-tu rapprocher le micro plus? Non. OK, pouvez-vous parler, vous assurer de parler de façon plus soutenue? Il me regarde, c'est la voix que j'ai, c'est de même que je parle. C'est ça que ça va être. Du pur Edward Locke. Mais en même temps, ça prend des gens qui ont une tête comme ça, qui ont de la détermination pour réussir dans la vie. Et j'ai beaucoup quand même de respect pour ça. Ceci dit, c'est rare que je parle de clients à moi, des gens avec qui je travaille, mais je vous conseille d'aller jeter une oreille à Vues et Voix. C'est quoi ça, Vues et Voix dans la vie? Ben avant, ça s'appelait la Magnétothèque. Puis la Magnétothèque, eux autres, ben, maintenant, Vues et Voix, ce qu'ils font, c'est que leur mission première, c'est de donner accès aux non-voyants à la culture, donc principalement aux livres, mais à la culture en général. Donc, ce qu'ils font, il y a, je dirais, c'est une entreprise bicéphale, un organisme plutôt bicéphale, c'est que d'un côté, il y a le studio qui a la responsabilité de enregistrer de façon audio plein de livres. Donc, ils sont mandatés par la grande bibliothèque. C'est eux qui font l'enregistrement. Et justement, lorsqu'on est non-voyant ou quand on a différents problèmes, hein, même pas besoin d'être non-voyant, des gens qui ont de la dyslexie, des gens qui ont vraiment des problèmes de concentration, il y a des gens qui, c'est pas une limite physique, mais c'est une limite, ils n'ont pas la concentration nécessaire pour réussir à lire un roman, alors que quand ils l'écoutent, il n'y a aucun problème, c'est un peu comme un film. Donc c'est ça, on ne le sait pas, mais plusieurs personnes peuvent avoir une dérogation pour pouvoir avoir accès à ça. Ce qui est phénoménal, même les personnes âgées, les gens qui ont le Parkinson, qui bougent trop, qui tremblent trop pour pouvoir bien lire, les gens qui ont ce qu'on appelle de la dégénérescence maculaire, qui sont en train de devenir un peu aveugles, oui, puis là, qui ne sont plus capables de lire le journal, qui ne sont plus capables de lire des livres, ils pensent que les amoureux de la lecture comme ça, leur vie de lecteur est finie alors que c'est pas vrai. Ils peuvent continuer à lire de cette façon-là. Donc, c'est un organisme qui a vraiment un but très intéressant, qui a une mission vraiment très louable. Donc, d'un côté, il y a ces livres-là. De l'autre côté, il y a une radio. Donc, où est-ce qu'on produit à chaque jour? Je pense que c'est un bon 5 heures et plus de contenu original, donc à tous les jours. Et c'est pas de la radio où est-ce qu'on fait jouer de la musique en continu, c'est vraiment des entrevues, c'est des discussions, c'est vraiment toutes sortes de choses. Il y a vraiment de tout. Il y a évidemment des discussions sur les livres, il y a de la discussion sur les actualités. Il y a la revue de presse, donc où est-ce que les gens prennent tout ce qui se dit dans les médias imprimés, tout ce qui s'écrit dans les médias imprimés, que les gens avec des problèmes de vision ou d'accessibilité ne peuvent pas lire ou voir. Et ils leur font un compte-rendu, ils font une lecture, ce qui est assez pratique pour eux. Donc, ils peuvent avoir accès au même contenu que tout le monde. Donc, allez faire un tour. Il y a vraiment il y a des émissions d'affaires publiques. Il y a vraiment de tout. Et il y a toutes sortes de mondes intéressants qui sont interviewés. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'étais allé faire un tour là, puis la veille, il y avait Fred Pellerin qui était allé là, puis bon, etc., etc. Donc, ça vaut la peine aller faire un tour là. Et la beauté de ça, ben, c'est qu'ils archivent tout. Donc, tout est disponible, soit en différé. Donc, vous pouvez aller cliquer pour écouter directement sur le site web ou en balado-diffusion. Ou même en direct, donc vous pouvez écouter la radio en direct à partir du site. Sinon, ben, si vous êtes abonné, genre à Vidéotron ou à Bell, vous avez ça sur dans les postes sur votre télé. Vous êtes peut-être demandé c'est quoi ce canal M, vue et voix. Ben c'est ça. C'est cette entreprise-là, cet organisme-là qui a une très, très belle mission. Donc, je vous laisse avec mon pote Jean Leloup. J'approche près de la marque de l'heure. Et je vais aller me coucher. Donc, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas d'aller sur le iTunes Store, aller mettre des petites étoiles, des commentaires. Ça va me faire un plaisir énorme, gros comme la terre. Je vous dis à bientôt. Bye bye.
Les chiens aboient, le train passe, c'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Les chiens aboient, et Willy, le vieux Willy, écrit. À toi, ma bouteille de whisky, je lègue ma tristesse et mes ennuis. À toi, ma bouteille de whisky, je lègue mes fucking soucis, j'ai raté ma vie. n'était, semble-t-il, qu'une question de seconde. Elle ne tient qu'à un fil, notre place dans ce monde. Au détour d'une peine, je me suis égaré. Si loin qu'on se souvienne, ma mémoire est cassée. Mes amours étaient belles, mais tout me les rappelle. Encore le labyrinthe, le destin qui m'esquinte. Les chiens aboient, le train passe. C'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux. Ne soyez pas trop triste pour la fin de ma piste. Tous mes os me font mal, ils m'attaquent en chacal, en combat inégal. Ouch! Ah! Un peuple de démons, de fantômes en sommeil, se cacherait-il au fond de toutes mes bouteilles? Je suis si vieux, et où sont mes petites vieilles? Pour ma part, il me tarde de partir en voyage. Quitter cette famille de terreur qui vomit. Les chiens aboient, le train passe. C'est la nuit, pas loin de minuit. Les étoiles sont magnifiques, le ciel est noir, de ce noir bleu que l'on voit quand on est triste ou bien joyeux.
Au loin, les flammes.
Hein, regardez là-bas, c'est la cabane à Willy.
Les flammes,
ça brûle.
Au loin les flammes. Au loin.
Et au vent qui en aimera la fumée de ma cabane en bois. Je lègue ma philosophie et aussi toutes mes idées de génie. Et enfin à toi le passant qui passera, je te lègue ma porte au bas. Je te préviens tout de suite, l'amour n'existe pas.